Bienvenue à tout le monde. Alors, l'être humain et ses travers, c'est le titre de l'étude de ce soir. Et moi qui en ai beaucoup, des travers, je suis bien placé pour vous proposer une lecture de ce texte de Jacques. Et on n'est pas à la noce ce soir. Jacques, il ne secoue les puces. Donc on va le lire. Et puis on va essayer de comprendre ce que nous devons retenir. C'est le chapitre 4, les versets 1 à 10. Je vais les lire dans la Nouvelle Bible Second, NBS. D'où viennent les conflits? D'où viennent les querelles parmi vous? Sinon de vos plaisirs qui combattent dans votre corps tout entier. Vous désirez et vous ne possédez pas. Rempli de passions jalouses, vous assassinez et vous ne pouvez rien obtenir. Vous multipliez les querelles et les conflits, mais vous ne possédez pas, parce que vous ne demandez pas. Et si vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, afin de pouvoir dépenser pour vos plaisirs. Adultère ! Ne savez-vous pas que l'amour du monde est hostilité à l'égard de Dieu ? Celui qui est décidé à être ami du monde se rend donc ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain lorsqu'elle dit « Il désire jusqu'à l'envie l'Esprit qui l'a fait habiter en nous ?» Mais la grâce qu'il accorde est supérieure puisqu'elle dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles. » Soumettez-vous donc à Dieu, opposez-vous au diable et il vous fuira. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Purifiez vos mains, pécheurs, et nettoyez votre cœur, âme partagée. Reconnaissez votre misère, menez deuil, pleurez. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Abaissez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. Depuis le chapitre 3, nous sommes déjà... Le ton est donné. Vous vous souvenez de cette fin de chapitre 3 où Jacques parle des deux sagesses, enfin... des deux sagesses dont il n'est qu'une qui soit véritable, celle d'en haut. Et celle d'en bas, elle est ambition personnelle, je cite le verset 14, et puis un peu plus loin aussi, elle est passion jalouse, et ce sont des choses qui nous conduisent à avoir une mauvaise attitude. Cette sagesse-là, nous dit l'apôtre Jacques au verset 15 du chapitre 3, dit... cette sagesse-là, pardon, elle est terrestre, animale, démoniaque. Il utilise des mots forts, hein. Et ensuite, il dit, à cause de cela, il y a du désordre et toutes sortes de pratiques mauvaises, verset 16. Mais il va reprendre, en quelque sorte, ces pratiques mauvaises et ce désordre en parlant au chapitre 4. Jacques nous conduit à une remise en question personnelle, et intime, profonde. Vous aurez remarqué en écoutant la lecture ou en lisant que Jacques ne dit pas « Vous ne devez pas vous disputer, point !» À aucun moment, il ne dit d'arrêter de se disputer. Il dit bien plus fort encore, il dit « D'où viennent les disputes, d'où viennent les conflits ?» Autrement dit, avec ce texte, on n'est pas dans les, vous savez, les formules magiques, yaka, il faut qu'on, c'est pas l'oiseau, il faut pas, ou des choses comme ça. On est dans une introspection à laquelle Jacques exige que nous venions. Ce serait trop facile de dire, bon, comme avec des enfants, je crois l'avoir déjà dit, vous vous êtes disputé, allez, faites-vous un bisou et c'est fini. Non, non, Jacques veut plus profond que ça. Si on s'est disputé, il faut que chacun d'entre nous se demande pourquoi je me suis disputé avec un tel ou une telle. Alors, le vocabulaire, les conflits, les disputes ou les querelles, bon, le mot conflit, c'est des batailles. Alors, je pense qu'il faut le prendre pas au sens qu'on se tape dessus, enfin, j'espère, mais qu'on se dispute. Et là, c'est pas la peine de tourner autour du pot, on a tous connu ça, je pense. Ben, c'est de ça dont parle Jacques. Alors, moi, je vais vous demander de m'aider. C'est quoi nos sujets de dispute habituels? Je vous en citer quelques-uns. On n'est pas d'accord sur la manière de ranger une salle, de faire le ménage. On n'est pas d'accord sur la manière d'organiser une activité. Donc on va se disputer. Y a-t-il d'autres sujets sur lesquels on se dispute, où on a tendance à se disputer facilement parmi nous? Je vous écoute. Ne me dites pas que vous n'avez pas d'idées, hein, parce que vous avez des souvenirs pénibles peut-être. Évitez les noms, s'il vous plaît.
La manière de conduire la voiture.
La manière de conduire la voiture, ok. Alors, dans l'église, là c'est dans quand on est dans une même voiture.
L'interprétation d'un texte.
L'interprétation d'un texte, où là on va se disputer. Il y a des sujets délicats sur lesquels la tension monte très vite. Pourquoi la tension monte-t-elle très vite? C'est une question que Jacques nous pose. D'où viennent les conflits? Vous avez d'autres idées? Moi, j'ai noté encore le rapport à l'autorité, c'est-à-dire quand quelqu'un est chargé de faire quelque chose dans l'église, ça peut gêner d'autres personnes de voir cette première personne qui est chargée de quelque chose. Je dirais prendre de l'assurance, prendre son rôle avec cœur, et puis éventuellement faire un peu montre d'un minimum d'autorité pour le domaine où on lui demande d'agir. Et puis à ce moment-là, il y a d'autres personnes qui peuvent prendre ombrage, se sentir agressé, et il y a des disputes. Jacques prend acte de ces disputes, il sait qu'elles existent, et il pousse donc ses lecteurs à s'interroger. Les disputes, d'après Jacques, ne viennent pas de problèmes doctrinaux. À aucun moment, il ne dit « vous avez des différences ». Paul va aborder ces choses aux Corinthiens, par exemple. Il va y avoir des différences doctrinales, ça peut exister. Comment tu disais, manière de comprendre un texte. Voilà, il peut y avoir des... Mais Jacques ne cite pas du tout ces choses-là. Alors que parmi nous, c'est un sujet qui revient très souvent. On est en tension parce que on n'a pas la même manière d'interpréter un texte. Et ce qui m'intéresse, et ce qui me met au défi dans ce texte de Jacques, c'est que ce n'est pas du tout la source des conflits. C'en est une autre. Ce sont des ressorts psychologiques. Alors, on ne va pas écrire psychologique dans la lettre de Jacques, mais c'est ça. D'où viennent les conflits, d'où viennent les querelles parmi vous, verset 1, sinon de vos plaisirs qui combattent dans votre corps tout entier. Ou alors, on pourrait dire, de votre recherche, de votre propre plaisir. Il y a des mécanismes intérieurs, dit Jacques, qui provoquent des disputes. Alors, le chapitre 3 parlait d'ambition personnelle. Je pense que ce mot est à distinguer de l'ambition tout court. C'est difficile de le traduire. C'est un genre d'orgueil qui veut dominer sur les autres. C'est pas l'ambition « Ah tiens, je vais faire ça, je vais le réussir et ce sera beau ». Non, c'est l'idée plutôt de se sentir plus compétent, par exemple, que d'autres, de se comparer aux autres. La recherche du plaisir, au chapitre 4, nous intrigue. N'a-t-on donc pas le droit de manger un bon repas, par exemple? Est-ce que si je mange un bon repas, si j'ai plaisir à manger un bon repas, je vais me disputer avec quelqu'un? Est-ce que c'est ça que Jacques veut dire? Nous avons entendu parler de la sexualité dimanche dans la prédication. Est-ce que c'est ça? Est-ce que celui ou celle qui a un plaisir dans sa vie sexuelle avec dans son conjoint, est-ce que c'est mauvais et il va se disputer? Est-ce qu'il faut s'abstenir de l'humour, par exemple, parce que c'est un certain plaisir, je sais de quoi je parle, et alors il faut s'en abstenir parce qu'on va se disputer. Est-ce que tous nos plaisirs sont ainsi source par eux-mêmes de disputes? Je ne pense pas qu'il faille lire Jacques de cette manière. En revanche, si mon bon repas se passe dans l'égoïsme et dans l'insouciance à l'égard de celui qui est juste à côté de moi et qui, lui, est bien dans des difficultés matérielles, là, ma recherche de plaisir va être une cause de tension et de dispute. J'ai vu à la télévision l'autre jour un film sur les femmes victimes de violences. Et si les hommes, enfin l'homme ou les qui sont auteurs de violences et qui abusent aussi de violences sexuelles à l'égard des femmes pour rechercher leur plaisir, s'ils le font ainsi, c'est une cause de dispute, de violence. De s'abstenir de l'humour, non. En revanche, si c'est en blessant quelqu'un, en me moquant d'une catégorie de population, ou en ridiculisant quelqu'un et en lui donnant peut-être des blessures profondes, oui, c'est une cause. Cette recherche de plaisir est une cause de violence et de dispute. Et ce dernier exemple, n'y a-t-il pas à un moment donné où dans une ambiance de travail, on aime bien, on a un bouc émissaire, on se moque d'un tel ou d'une telle, et puis finalement tout le monde rit, et cette personne est profondément blessée. Je veux dire, ce sont des situations qui existent, qu'on connaît, et j'espère auxquelles on n'a pas participé. Donc oui, la recherche du plaisir personnel, de l'intérêt personnel, même si le plaisir personnel n'est pas une mauvaise chose en soi, cette recherche-là peut être effectivement une cause de dispute et de conflit. C'est ce que Jacques va appeler au verset 4, l'amour du monde. Quand on recherche toujours son propre plaisir au détriment, sans se tenir compte du plaisir ou de la paix des autres. Le plaisir, s'il devient aussi, on peut dire, notre approche, si le plaisir devient une addiction, on parle beaucoup des produits de dépendance aujourd'hui, la drogue, le cannabis par exemple. Pour prendre du cannabis, qui est un plaisir que je prends, enfin, je vous rassure, moi non, mais je vais participer à un commerce qui provoque énormément de violence dans le monde, pour fumer mon petit joint. Le plaisir, s'il devient, et c'est une addiction, le plaisir, s'il devient une addiction, est un stratège qui nous envahit. Le mot stratège, je l'ai utilisé tout simplement en recopiant le mot grec « les plaisirs qui combattent dans votre corps tout entier ». C'est cette idée du combat, du plaisir qui est là, qui est un bon serviteur et un mauvais maître. Et ne gâchons pas notre plaisir lorsque nous pouvons vivre un des exemples que j'ai cités tout à l'heure et bien d'autres encore. Mais méfions-nous que cette recherche de plaisir, si elle est là, ne devienne pas une addiction, c'est-à-dire une dépendance, pour laquelle on va être prêt à sacrifier des relations. Et de toute manière, cette recherche de plaisir, si elle prend trop de place dans notre vie, va nuire à nos relations et provoquer des disputes et des tensions avec ceux qui nous gêneraient dans cette recherche de plaisir. Et plus largement que le plaisir, il est question dans notre texte de passion jalouse. Alors c'était déjà écrit au verset, au chapitre 3. Passion jalouse. Alors peut-être vous avez zèle, c'est le mot grec zèle, hein, dans vos traductions. C'est un mot qui peut être tout à fait positif, au sens Dieu est zélé, ça veut dire il est ardent dans l'amour qu'il a pour nous. Ça peut avoir une connotation vraiment négative, et c'est ce qu'on a ici par passion jalouse. C'est un genre d'énergie négative qui se terre dans nos cœurs. Par exemple, le désir d'être plus compétent que l'autre. Le désir d'être plus fort que l'autre. Arrêtez-vous un instant. Arrêtons-nous un instant. On l'a tous eu, on est d'accord? Ce désir-là ou cette gêne de voir quelqu'un de plus intelligent, de plus instruit, de plus compétent. Une femme que l'on juge, si on est une femme, soit même plus belle que soi, ou des choses, ou quelqu'un de plus grand. Moi qui fais 1m68, des gens plus grands, j'en ai croisé un certain nombre, des gens plus grands que moi. C'est pas toujours évident et ça m'apprend, moi, et j'ai ça de plus que les grands n'ont pas, ça m'apprend qu'il y a des gens plus grands. Donc que je ne suis pas le plus fort, le plus, mais je suis un parmi les autres. Il y a des gens qui sont plus petits que moi aussi, peu, mais il y en a. Et ça apprend des choses. Quand on est tout simplement honnête avec soi-même, patient jalouse, méfions-nous de ces petites voix au fond de nos cœurs qui nous disent « Celui-là, il te met en danger parce qu'il est plus compétent que toi. » Et cette même petite voix va me dire « Rabaisse-le pour qu'il ne soit pas plus haut que toi. » Rabaisse-la pour qu'elle ne soit pas plus haute que toi. Le pharisien, et ça s'applique aussi à notre vie d'église, hein, ces mécanismes-là. Prenez le pharisien dans le temple. Qu'est-ce qu'il disait quand il priait? Il disait, Seigneur, regarde comme il bombait le torse. Hein, il disait, je suis, alors, faisons avec nos mots, disons-le, transposons. Je prie mieux que ma sœur ou que mon frère. Je suis certain que je donne plus d'argent à l'église qu'un tel et un tel. Je suis engagé, je fais telle et telle chose. Hier, j'ai fait le ménage. Et lui, il salit avec ses chaussures. On a tous ces petites pensées dans nos cœurs, pas vrai? Qu'est-ce qu'a dit Jésus de cette histoire du pharisien? Qu'il n'est pas sorti justifié du temple, mais que c'est celui qui se frappait la poitrine et qui se disait, bon, bah écoute, Seigneur, j'ai vraiment... Je viens au culte ce matin, mais franchement, j'ai rien à faire valoir, quoi. Je suis content d'être là, mais merci de m'accueillir, parce que heureusement que tu es un Dieu de grâce, sinon, comment pourrais-je me présenter? Et celui-là est sorti justifié du temple, ou de l'église, si vous me permettez cette transposition. Cette idée aussi d'être plus dans l'Église, d'être un meilleur membre que les autres, parce qu'on fait partie d'une grande famille de l'Église. Alors ça, je fais des clins d'œil à quelques-uns d'entre vous, et je n'accuse personne, mais qu'on est issu du sérail, alors on peut se dire, on pourrait se dire, rassurez-vous, je ne jette aucune pierre, que finalement on est quand même de meilleurs membres de l'Église que ces petits nouveaux qui sont arrivés il y a seulement 35 ans. Et on a tendance à ce moment-là à attaquer, à rejeter, à défier. Même si toutes ces choses vont être religieusement recouvertes d'un vernis spirituel et évangélique, nous aurons toujours, reconnaissons-le, ces ressorts qui agissent en nous si nous ne laissons pas. Déjà, si nous ne les reconnaissons pas, si nous ne les identifions pas dans notre propre vie. Nous avons besoin d'être reconnus, d'être intégrés, de faire partie. Mais faisons attention que ces besoins-là ne soient pas, pour qu'ils soient satisfaits, une source de dispute. Autrement dit, ce que l'apôtre Jacques nous dit... c'est que les disputes entre nous ont leur source dans nos passions intérieures, dans nos mécanismes profonds. Et ceci peut être même assez fort, assez violent. Notre engagement à être fidèle au Seigneur, nous avons eu des baptêmes il n'y a pas longtemps, c'est un engagement à être fidèle, nous avons eu... des témoignages enthousiastes. Notre engagement à être fidèle au Seigneur peut nous conduire à vouloir briller devant les autres par notre consécration, pour paraître plus que l'autre. Notre intégration dans l'Église peut nous conduire à vouloir être important et pour cela rejeter d'autres qui me mettrait en danger, qui risquerait de prendre ma place. qui risquerait de remettre en question l'autorité que j'ai acquise par ma bonne volonté et mon engagement. Notre souci d'obéir à la Bible, et j'espère que nous l'avons tous, comme les précédents d'ailleurs, peut nous conduire à vouloir dominer sur les autres par notre connaissance. Je connais mieux la Bible que toi, mon pauvre petit. Et donc je suis supérieur à toi. Plaise à Dieu que nous connaissions la Bible du mieux que nous pouvons. Mais prenons garde à ce genre d'orgueil qui nous guette parce que nous ne sommes qu'humains. Notre engagement dans l'Église peut nous conduire à vouloir prendre du pouvoir sur les autres, les commander, à être indiscret et connaître des choses de leur vie pour quelque part en disposer, à manœuvrer pour conserver notre place, je l'ai cité tout à l'heure, peut nous conduire à aimer être félicité, aimer les encouragements parce que nous les prenons comme des flatteries pour notre orgueil. Ces choses les plus belles qui soient, j'ai parlé de s'engager à être fidèle au Seigneur, de nous intégrer dans l'Église, d'obéir à la Bible, de nous engager dans un service donné, sont belles merci au Seigneur pour toutes les vocations qu'il a suscitées parmi nous et autour de nous. Mais prenons garde que cette lettre de Jacques au chapitre 4 ne nous frappe pas, ne nous corrige pas, n'est pas à nous corriger. L'apôtre Jacques s'adressait à des chrétiens, s'adressait pas à des sauvages venus de nulle part. Il s'adressait à des chrétiens, des chrétiennes. Il s'adresse à nous. Au verset 3, donc j'ai pas fini le verset 2, il est écrit, nous l'avons vu avec les animateurs de groupe, vous assassinez. Vous avez le verbe peut-être dans vos traductions, vous avez autre chose, vous commettez des meurtres, hein, vous désirez, vous ne possédez pas, et vous ne pouvez rien, rempli de passion jalouse, vous assassinez, vous ne pouvez rien obtenir. Alors c'est le mot assassiner, hein, c'est le mot commettre un meurtre. Bon, ceci dit, on peut imaginer que ce n'était pas au sens propre. On dit aujourd'hui qu'il y a des paroles qui tuent. Je pense que c'est ce registre-là, en fait, des paroles mortifères. C'est ces paroles qui sont du registre de la violence létale, tellement elles sont violentes. Mais on peut espérer quand même que nous ne viendrons jamais à avoir ce texte, à en faire une application littérale. De nous frapper et de nous tuer. Verset 3. Si vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, afin de pouvoir, toujours pareil, dépenser pour vos plaisirs. Jacques va au fond. Ses passions sont au fond de nos cœurs. Ses passions, si bien déguisées, sont l'amour du monde. Nous l'avons juste après. L'amour de soi-même. L'amour de notre confort. L'amour de nos satisfactions. Et ces choses-là sont inimitiées contre Dieu, nous dit-il au verset 4. Comment voulons-nous qu'en priant le Dieu pour lequel nous avons des actions hostiles, contre lequel nous avons des actions hostiles, puisqu'il s'agit d'inimitié contre Dieu, comment voulons-nous que nos prières soient exaucées? Quelle relation avons-nous avec ce Dieu-là dont nous offensons les enfants par notre propre conduite. Désolé, on rigole pas trop avec ce texte. Moi pas, parce que ça m'oblige à regarder en moi-même, pas chez les autres qui ont tort, qui ont, de mon point de vue, mais d'abord, Jean-Marc, regarde en toi-même. Est-ce que tu as envie de dominer cette personne? Est-ce que tu as envie d'être plus reconnu, plus compétent que lui? Est-ce que tu as envie d'être, etc. Chacun se pose les questions qu'il doit se poser. Et on n'a toujours pas demandé pardon à Dieu pour nos offenses. Et on ne va toujours pas le faire, en tout cas maintenant. De mon point de vue, nous chrétiens, nous venons, alors je vais peut-être dire une bêtise, trop vite à demander pardon à Dieu. Ce que fait Jacques ici, c'est qu'il nous oblige à, avant de demander pardon à Dieu, parce qu'on va devoir le faire, la fin du passage, elle est, hein, abaissez-vous. Ok, mais c'est tout à la fin, ça vous avez remarqué. Abaissez-vous, qu'est-ce qui est écrit ? Devant le Seigneur, et il vous élèvera. C'est la toute dernière phrase de notre texte. Et avant ça, on doit regarder. Et ne pas demander pardon tout de suite pour nos disputes, et puis après, c'est fini. Le pardon serait à ce moment-là un genre de dispense de faire le travail sur soi qu'il nous faut faire d'après Jacques. Je vous rappelle que Jacques n'a pas écrit « Vous vous êtes disputé, c'est pas bien, demandez-vous pardon, demandez pardon à Dieu et roulez jeunesse. » Non, il demande d'abord une introspection. Présentons au Seigneur nos passions intérieures. Présentons au Seigneur notre désir d'être le plus fort, d'être la plus belle, d'être le plus compétent. Ou alors, disons au Seigneur, nos peurs, nos espoirs, nos blessures. Seigneur, et il ne s'agit toujours pas de confesser les péchés. Seigneur, quelques exemples, j'ai toujours peur d'être le dernier. J'ai peur de ne pas plaire, d'être rejeté. Seigneur, j'ai une image très mauvaise de mes compétences, je suis bon à rien. Alors, si j'ai cette idée, je suis bon à rien, vous voyez le mécanisme ? Ça veut dire que si je vois quelqu'un qui est très doué dans plein de choses, qui fait les trucs, moi j'ai besoin de 2 heures, lui en 5 minutes, c'est plié. Je peux avoir tendance à le critiquer pour le rabaisser, pour diminuer cette différence entre lui et moi qui me fait si mal. Et comme je ne peux pas monter, lui, je vais le faire baisser. D'où les disputes, les conflits et ce genre de choses. Seigneur, j'ai besoin d'être encouragé. Parce que dans mon enfance, mes parents me disaient toujours que j'y arriverais pas. Alors aujourd'hui, j'ai besoin d'être encouragé. Et quand je ne reçois pas les encouragements dont j'ai besoin dans l'Église, j'agresse pour les avoir. Je reproche à ceux qui devraient me les donner de ne pas me les donner. Toutes sortes de mécanismes dans lesquels je ne fais donner quelques exemples maladroits qu'il nous faut présenter devant le Seigneur. Ce sont ces passions-là qui, pour ne pas avoir été satisfaites, parce qu'on ne s'est pas permis de les dire au Seigneur, de laisser le Seigneur les regarder, lui, notre Père Céleste. Ce sont ces passions-là qui, pour être satisfaites, nous poussent aux assassinats, dont parle l'apôtre Jacques, au verset 2. Il y a quelques difficultés de traduction dans ce texte, et une ici. Je vais vous lire juste un extrait d'un commentaire à propos de cette phrase du verset 2, « Rempli de passion jalouse, vous assassinez, vous ne pouvez rien obtenir. » C'est un commentaire qui écrit « Vous enviez sans pouvoir être satisfait, alors vous combattez. Comme j'ai été frustré de ne pas avoir été encouragé, reconnu, choyé, etc., alors mon poing se serre, et là je vais combattre, et là je vais assassiner, au sens figuré. » Et c'est maintenant qu'il nous faut confesser nos fautes devant le Seigneur. C'est quand on a fait tout ce chemin, et seulement avec ce chemin-là, qu'il faut s'adresser au Seigneur et lui dire « Seigneur, tu vois mes besoins, tu vois les blessures, tu vois ce manque de confiance que j'ai en moi, par exemple, je te le dis, Seigneur, et je te demande de soigner cette blessure, et je te demande de me bénir sur ce domaine-là où je suis fragile, où je suis blessé. Et ensuite, je te demande pardon parce que j'ai agressé, j'ai assassiné, j'ai combattu pour satisfaire ce besoin-là d'une mauvaise manière. Là, il y a la confession de nos fautes, et là seulement. L'apôtre Jacques nous traite d'adultère. Si de vous demander, vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, afin de pouvoir dépenser pour vos plaisirs. Je vous ai proposé une prière pour remplacer ce malheureux verset 3. Enfin, ce que décrit Jacques au verset 3, ce qu'il repousse, ce qu'il critique. Nous avons vu le verset 4 aussi. L'amour du monde est hostilité à l'égard de Dieu, l'amour de nos plaisirs, de nos satisfactions. Et puis, au verset 5, il y a un petit mystère. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain lorsqu'elle dit ? Bien malin qui pourra trouver l'endroit où elle le dit. Cette phrase, il désire jusqu'à l'envie l'esprit qui l'a fait habiter en nous. On n'a pas vraiment de référence dans l'Ancien Testament pour cette phrase-là. Et c'est une question qui n'est pas évidente, qui d'ailleurs se range au registre de toute une série d'autres citations qui parfois sont un peu compliquées à... Il est un peu compliqué de citer la source, parce que dans les manuscrits grecs du 1er siècle, il n'y avait pas la petite note, vous savez, un pied de page, un, et là on note la référence, l'éditeur, l'année d'édition, l'auteur, et tout. Ça n'existait pas. Et là on est embêté, parce que Jacques cite quelque chose qu'on ne sait pas vraiment retrouver. En revanche, alors il cite, il désire jusqu'à l'envie l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Ensuite, Jacques reprend, mais la grâce qu'il accorde est supérieure, puisqu'il dit, et là il cite Proverbe, chapitre 3, verset 34. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles. Ceci pour un encouragement. Jacques, dit que Dieu nous aime, qu'il a placé son esprit, l'Esprit Saint, il l'a placé dans nos vies, dans nos cœurs. Et il aime cet esprit qui est parti de lui-même, qui est en nous. Il ne veut pas que là où siège le Saint-Esprit, il y ait toutes ces passions jalouses, il y ait ces meurtres en puissance. Il ne veut pas. L'Esprit de Dieu habite en nous pour restaurer ses blessures, soigner ses blessures, restaurer notre être. Et puis... L'Esprit de Dieu est en nous et il nous montre nos chutes, et il nous montre et il éclaire nos blessures et nos faux pas. Et nous ne devons pas prétendre à autre chose devant le Seigneur, car Dieu résiste à ceux qui font semblant, qui disent « moi je vais bien, j'ai aucun problème, c'est lui qui a tort ». Dieu résiste aux orgueilleux et l'encouragement est là, il accorde sa grâce aux humbles. Et tout revient bien sûr de nouveau à ce pardon de Dieu dont j'ai déjà parlé. Nous devons prendre conscience donc de nos fragilités, je pense que j'ai été suffisamment explicite là-dessus. Ça ne veut pas dire que nous devons nous humilier, s'écraser, nous écraser. Vous savez, quelquefois il y a on pratique un genre d'exercice hyper spirituel, et je le dis avec des gros guillemets, en disant en gros, je suis désolé, quand on a fait une indélicatesse ou une maladresse, je suis désolé, je suis vraiment nul, ça m'arrive de le dire moi d'ailleurs, ça. Alors que non, au fond, moi-même, je sais très bien que je pense pas que je suis nul. Que Dieu me garde de l'orgueil, oui. Que Dieu me garde de penser que je suis toujours le plus grand, etc. Je le suis parfois, mais une fois de temps en temps, oui. Mais que Dieu me garde aussi d'une mauvaise image de moi, où vraiment je n'aurai aucune force, aucune compétence, aucun apport dans le groupe. Que Dieu me garde aussi de cette image-là. Et s'il dit « Dieu fait grâce aux humbles », ça ne veut pas dire « Dieu fait grâce à ceux qui s'aplatissent tout le temps ». Ça veut dire « Dieu fait grâce à celles et ceux qui sont honnêtes sur leur mécanisme intérieur, sur leur force, sur leurs blessures, qui savent ce qu'ils sont autant qu'on puisse le savoir. Ils sont clairvoyants sur leur propre vie. Et cela demande de nous, cette humilité-là, ça demande de nous de prendre le temps de se regarder dans le miroir, et je parle au sens figuré, de s'observer soi-même à la fin d'une journée, quand on a par exemple eu un moment difficile, quand on a senti la colère monter. Quelle que soit ensuite la suite, est-ce que ça, il y a eu une dispute, pas, etc. Le soir, on s'interroge, on dit, mais pourquoi je me suis mis en colère? Qu'est-ce qui a provoqué cette colère? Eh bien, je me sentais agressé. Pourquoi je me sentais agressé? Parce que cette personne-là, elle est tellement plus... Les gens l'aiment, et puis moi, je suis toujours dans l'ombre. Je suis jaloux, par exemple. Et donc, je l'agresse. L'humilité doit me faire reconnaître ça chez moi, courageusement, et le confesser devant le Seigneur, en demandant au Seigneur de me donner la paix sur moi-même, sur l'image que j'ai de moi-même. Donc l'humilité ne doit pas être un exercice d'hypocrisie, plus humble que moi tu meurs, c'est pas ça, c'est reconnaître ses besoins, ses compétences, ses faiblesses, et aussi reconnaître tout cela chez les autres. Voilà ce que me semblait important de dire pour ce texte de Jacques. La fin, le dernier paragraphe, c'est vraiment Jacques qui se fâche. Hein. Nous l'avons commencé tout à l'heure, adultère au verset 4. Et puis à partir du verset 7, c'est vraiment, on pourrait presque dire que Jacques se fâche, comme j'ai dit. Enfin, attendez, les expressions qui sont écrites sont quand même rudes. Soumettez-vous à Dieu, bon. Opposez-vous au diable, oui. Et il vous fuira. Ceci dit, s'opposer au diable, c'est marqué après se soumettre à Dieu. On se soumet d'abord à Dieu, nous dit Jacques, et ensuite, on prend position contre le diable. Ça ne veut pas dire non plus qu'il faut dire que c'est le diable qui est fautif de tout. Ah ben, c'est pas moi, hein. Si je t'ai insulté, je t'ai traité de... Non, je ne vais pas donner d'exemple d'insulte. Si je t'ai insulté, c'est pas moi, c'est le diable. Non. Jacques dit, il parle ici de vos passions, de vos plaisirs, qui combattent dans vos membres. Mais ceci dit, le diable n'est pas loin. Le diable rôde, nous dit l'apôtre Pierre. Le diable, c'est celui qui a fait jouer ce genre de mécanisme dans le récit de la chute. Figuré par un serpent, qu'est-ce qu'il a dit à Ève ? Dieu a-t-il réellement dit ? Puis après, il a dit à Ève, mais attends, t'es en train de te faire avoir, ma pauvre. Si tu manges de ce fruit, ça va, hein ? Il flattait son orgueil. La technique du serpent était de toucher là où c'était sensible. Peut-être que c'est toujours la même technique qu'il utilise aujourd'hui. Il sait où je suis sensible. Il sait où sont mes blessures. Et il s'en sert. Soumettez-vous donc à Dieu, première chose. Et nous avons vu que se soumettre à Dieu, ce n'est pas « Seigneur, fais que je me dispute plus, amen ». Parce que cette prière-là, ça ne marchera pas. Dieu est puissant, hein, mais moi pas. Et cette prière-là ne m'exonérerait trop facilement de ce que le Seigneur me demande de faire. Regarder en moi-même et faire tout ce travail que j'ai évoqué trop longuement peut-être tout à l'heure. Soumettez-vous donc à Dieu, et puis ensuite opposez-vous au diable, et il vous fuira. de nouveau s'approcher de Dieu, il y a cet encouragement, il s'approchera de vous. Et puis ensuite, alors, les mains sales, hein, purifiez vos mains, pécheurs, nettoyez votre cœur, âme partagée, autrement dit, bah, tu chantes des beaux cantiques le dimanche matin et le lundi tu traites ton collègue d'andouille, voilà, âme partagée. Bon, mener deuil, franchement, c'est violent, quoi. Pleurer, c'est violent. Que votre joie se transforme en tristesse, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jacques appelle une prise de conscience. Il demande à ce que ses lecteurs et nous ne nous débarrassions pas si vite de ce texte de la Bible. Mais nous le laissions nous imprégner, nous déranger, et que des larmes peut-être viennent si nous sommes amenés à nous rendre compte que nous avons en nous des mécanismes de mort, des mécanismes d'assassin, des mécanismes qui sont peut-être pas forcément mauvais en soi. Prendre un bon repas n'est pas mauvais, mais vous vous souvenez de ce que j'ai dit tout à l'heure? Peut-être qu'il y a une action que Dieu doit mener dans la vie de ceux qui ont reçu cette lettre et de nous aussi. Une action de purification, de clairvoyance, de confession. Et je termine bien sûr par ce... On a d'un côté « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous » et puis on a cette idée de s'abaisser et Dieu nous relèvera. C'est une image très simple. On arrive devant quelqu'un, on se met à genoux devant lui, et lui nous prend par le coude, par exemple, et nous soulève pour nous relever devant lui. Souvenez-vous de l'enfant, la parabole de l'enfant prodigue, c'est ce qu'il a fait. Il n'a pas dit « Salut papa, je suis de retour !» Il n'a pas dit ça dans la parabole. Il s'est complètement abaissé et le Père l'a relevé. À un moment donné, dans nos vies, et je le dis en premier pour moi, il y a ces moments-là qui sont nécessaires dans nos vies, où on doit arrêter de s'attacher à la façade et reconnaître devant Dieu ses mécanismes intérieurs. D'où viennent les disputes? D'où viennent les conflits? De nous. De moi. C'est d'abord par moi qu'il faut que je commence quand il y a un conflit. La tendance naturelle n'est pas de cet ordre, hein. C'est plutôt l'autre qui a tort, forcément. Voilà, belle leçon de vie que l'apôtre Jacques nous donne ce soir. Et peut-être quelqu'un veut ajouter quelque chose, ou modifier, ou faire une remarque sur ce que je viens de dire. Moi, j'ai fini mes notes. Et nous avons 12 minutes devant nous. Je suis en avance.
Au verset 7, il y a « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. »
Oui.
Il y a le fait de résister. Et on peut le faire que si on se soumet à Dieu. Ça me fait penser à Caïn et Abel. Dieu a dit à Caïn, le péché se couche à ta porte, mais toi domines sur lui. Donc il y avait cette force dans Caïn qui le poussait à être jaloux, à tuer, jusqu'à tuer son frère. Mais Dieu lui a dit, tu es dans cet état-là, mais tu as la capacité de dominer sur cette violence qui commence à grandir en toi.
Alors, je vais juste répéter pour que tout le monde entende, hein, ce que tu viens de dire. Après, Claude vient de citer le verset 7, « Soumettez-vous donc à Dieu, opposez-vous au diable et il vous fuira. » Et ça lui fait penser au récit de Caïn et d'Abel. Quand Dieu a dit à Caïn, « Le mal se couche à ta porte, mais toi domine sur lui. » Et donc il y a cette nécessité pour Caïn de résister. Voilà.
Donc ça, c'est une action à mener.
Oui.
Et il n'a pas mené cette action. Alors, il a été mené à ce moment-là par le diable, en quelque sorte.
Alors, Claude dit que c'était une action à mener par Caïn, que Caïn n'a pas bien résisté à ça, et que finalement, c'est le diable qui a pris le dessus, qui a, lui, mené Caïn par le bout du nez, si on peut dire.
Ouais. Donc, merci. Ça serait intéressant de développer ce verbe, résister. Tout ce que tu l'as appliqué en partie, tu t'es appliqué ce soir à l'expliquer, tu vois. Mm-hmm. Mais c'est un gros travail qu'on a beaucoup parlé du travail à faire sur nous-mêmes ce soir. Tu l'as répété plusieurs fois.
Oui, je crois que j'étais un peu lourd même là-dessus, mais c'est pour me faire comprendre.
C'est contenu dans ce verbe résister.
Oui. En fait. Alors, le mot grec, mais je suis pas sûr de bien le traduire, mais c'est vraiment mettez-vous contre. Quoi. Vous voyez l'idée, quand on ne veut pas que quelqu'un ouvre une porte, on s'arboute, on empêche, on appuie. C'est un peu cette idée-là du verbe en grec, mais c'est l'étymologie et il faut être très prudent avec ça. Mais tu as raison de nous faire le parallèle avec le récit de Caïn. Et là, on a affaire à un mal qui est extérieur à nous. L'apôtre Paul, en t'écoutant, j'ai pensé à mon tour à un autre parallèle. C'est cette lutte intérieure dont Paul témoigne dans le chapitre 7 de la lettre aux Romains, quand il dit qu'il y a une lutte en lui-même. Je ne sais pas faire la différence entre une lutte contre la tentation qui viendrait de Satan, d'un démon, je ne sais pas, et une tentation qui vient de ma propre nature. Je ne sais pas faire la différence. Tout ce que je vois, c'est que dans la Bible, on parle des deux. Paul parle de la lutte intérieure. Jacques, ici, parle de la lutte intérieure, mais aussi de la lutte extérieure avec le diable, puisqu'il est question, comme tu l'as très justement souligné, de lui résister.
Mais c'est pas Dieu qui nous attaque.
Peu importe, à vrai dire, si c'est nous ou le diable, ce qui importe, c'est de résister. Et on y arrive plus ou moins. Vous êtes fait du même bois que moi. On y arrive plus ou moins.
C'est pas Dieu qui nous tente.
Alors la question qui est posée, ce n'est pas Dieu qui nous tente. Alors là, je vous renvoie au propos de... je l'ai aperçu, Adeline, il me semble qu'elle avait parlé de ça très justement. À propos d'un des textes, non, ce n'est pas Dieu qui nous tente, non. Et en même, oui, donc sous-entendu par là, c'est donc le diable. Oui. Voilà. Y a-t-il d'autres remarques? Merci. Y a-t-il d'autres remarques? Bon, alors il va y avoir de l'ambiance dans les groupes. C'est vu le sujet. Alors une des questions dans les groupes, ça va être quel défaut voyez-vous chez les autres? Et quels sont les mécanismes qu'il faut qu'ils arrêtent d'avoir et tout ça. Donc, il va y avoir de l'ambiance. On va fournir les gunbox à l'entrée des groupes de maison. Non, mais c'est un sujet qui est... On n'a pas l'habitude hein, de... J'ai été surpris, à vrai dire, en lisant ce texte. J'ai été surpris par la profondeur de l'examen qu'il faut faire. Normalement, il y a les listes de vices, qu'on appelle les listes de vices, hein, les disputes, l'envie, la jalousie, etc. Puis voilà, il ne faut pas, quoi. Hein, il faut pas. Mais là, Jacques, il aborde ça autrement. Il aborde ça, je trouve, de manière très moderne, en fait. Très psychologique. Et c'est excellent. Ça nous fait le plus grand bien.